Bonjour, vous êtes ici sur Radio B dans l'émission Musique au pluriel, animée par Paul Turchet et Bruno Point. Et aujourd'hui, nous allons au début du 19e siècle, la première partie du 19e siècle, retrouver un compositeur dont le nom est connu partout, Frédéric Chopin. Nous ferons deux émissions sur Frédéric Chopin. L'une que nous allons faire aujourd'hui, qui est consacrée, je dirais, au romantisme, à la nouveauté de la musique, vraiment à la délicatesse de Frédéric Chopin, à ce qu'il a amené dans la musique. Et la deuxième, ça sera son originalité d'apatride, puisqu'il était, non pas apatride, mais qui avait quitté son pays, la Pologne, et donc son attachement à son pays d'origine, avec une musique plus rugueuse, plus fougueuse, presque quelquefois nationaliste, mais avec tous les aspects positifs de ce terme, puisqu'il peut en avoir aussi. Donc, nous allons aujourd'hui démarrer cette émission par une valse de Chopin. Tout le monde connaît les valses de Chopin. Donc, entamons avec une valse très célèbre jouée par Vladimir Horowitz.
Chopin naît le 1er mars 1810 dans le duché de Varsovie, français par son père, polonais par sa mère. ce qui nous fait rejeter toutes ces théories qui ne sont pas sans intérêt, mais Chopin est-il plus français que polonais? Il est manifestement les deux, et au-delà de cela, il compose une musique universelle, comme la plupart du temps la musique. Il passera 20 ans de sa vie en Pologne, moitié polonais, il passera 19 ans de sa vie en France, où il mourra, enterré au Père Lachaise, moitié français. Il est tout cela et bien au-delà. Son premier maître, on a pu dire que Chopin était un autodidacte du piano, et je crois que c'est parfaitement vrai, c'est un enfant prodige, c'est un petit génie du piano, parce que son premier maître, Wojciech Zimny, est en fait un violoniste. Chopin apprend le piano à partir de 6 ans, c'est un violoniste, mais qui donne quand même quelques cours de piano, et ce jeune Chopin, évidemment, va manifester des dons tellement évidents que 5 ans plus tard, son maître dira qu'il ne peut plus rien lui apprendre. Et Chopin, ensuite, ira apprendre la musique avec un tchèque, Würfel, et qui sera plutôt son professeur d'orgue, et Elsner, qui est directeur du conservatoire en Pologne. Bon. Les dieux de Chopin, il apprend le piano, je peux dire, un peu effectivement en autodidacte. Son Bach, son Mozart, son Haydn, et surtout Bach et Mozart. Il dira toujours à ses élèves de jouer Bach. C'est beaucoup mieux que de faire des exercices interminables et terriblement fastidieux. En 1826, il rentre, il a 16 ans, à l'école de musique de Varsovie, et il fait ses premières compositions, premières sonates. Il sera déjà célèbre par son œuvre « Les variations, la si d'arem, la mano », d'après le Don Juan de Mozart, qui feront dire à Schumann, à propos de Chopin, « Chapeau bas, messieurs, un génie ». Il compose son rondo cracoviaque, il fait un petit peu d'orchestre pour entourer, évidemment, cette pièce, mais Chopin, c'est le piano, rien que le piano. Ses premiers concerts publics sont rémunérés. Il se produit à Vienne, il se produit à Berlin. Et puis l'agitation révolutionnaire en Pologne et l'insurrection de 1831 vont le conduire. Il est très patriote, bien sûr. Il aura toute sa vie la nostalgie de son pays, qui sera démembré au fil des guerres et par les grandes puissances. Et il arrive à Paris en juillet 1831. Où il se fait connaître déjà par son inspiration mélodique, par le beau chant. On dit que Chopin, pour le piano, c'est le beau chant, c'est le bel canto qui correspond à l'opéra, sa grâce, son élégance. Écoutons, pour s'en convaincre, si besoin était, sa valse opus 34 numéro 2, qui est une valse lente, mais qui comprend un chant éperdu, un chant magnifique qui nous conduit dans une atmosphère de grâce. Thank you.
Une valse, c'est une danse. Ici, nous n'avons pas vraiment entendu une danse. Ça me fait penser à Astor Piazzolla, à qui nous avions consacré une émission, qui lui aussi a écrit des tangos, mais pas pour être dansé, pour être joué. Eh bien, bien que contemporain de Johann Strauss, qui était né en 1804 et qui est décédé en 1849, la même année d'ailleurs que Chopin, qui est lui l'empereur, d'ailleurs une de ses valses porte ce titre, de la valse, et que l'on peut danser, même si elle est symphonique et majestueuse dans Johann Strauss, là non, ce sont des formes musicales qu'a presque inventé Chopin. Il y a des valses de Beethoven, il y a des valses de Mozart, qui sont plus proches d'ailleurs de celles de Chopin, parce qu'il s'en est inspiré dans la forme. Nous sommes dans des formes qui sont faites pour exprimer le romantisme, pour exprimer la douceur, pour exprimer les sentiments. Il y aura pour ça d'autres formes que va créer ou en tout cas développer Chopin, les ballades, les scherzos, qui sont des formes musicales tout à fait spécifiques qu'il a vraiment portées en avant. Et notamment, il y a le nocturne. En l'occurrence, les nocturnes ont été inventées, la forme, par un compositeur irlandais, John Field, qui était élève de Clementi, qui, comme Gershwin, qui était un pianiste fait pour vendre des pianos à l'époque, vendre des partitions, eh bien, John Field, lui, était un très grand pianiste qui a promu la marque Clementi en faisant le tour d'Europe pour vendre des pianos Clementi. Et puis finalement, il s'est fixé en Russie et il est resté dans l'histoire pour les nocturnes, nocturnes d'ailleurs où il a eu un parrain majestueux, puisque c'est Francis lui-même qui a rassemblé tous les nocturnes de Field pour en faire un ensemble. C'est dire qu'il avait recueilli l'aval d'un grand compositeur. Donc écoutons un nocturne de Chopin joué toujours par Vladimir Horowitz. Thank you. Comme l'a dit Paul, les maîtres en harmonie de Chopin sont Bach et Mozart. Et ne nous y trompons pas, lorsqu'on écoute cette œuvre, la science harmonique est très présente et très construite. Il est un autre compositeur contemporain de Field et contemporain de Beethoven qui va influencer dans la forme et dans le lyrisme Chopin. En l'occurrence, c'est Hummel. Hummel, Johann Nepomuk Hummel, autrichien, qui a écrit notamment un concerto fameux pour trompette et des concertos pour piano, qui, lorsqu'on les écoute, parce qu'on connaît plus Chopin que Hummel, lorsqu'on découvre Hummel, on se dit « mais c'est un concerto de Chopin que je ne connaissais pas ». En l'occurrence, vraiment, on retrouve le lyrisme, la construction, et puis toute la science de mettre en valeur le piano avec l'orchestre qui est là, très lyrique. Donc je vous invite à écouter un court extrait d'un concerto de Hummel, puis après nous écouterons Chopin. Hummel, vraiment, avait été l'élève de Mozart, de Haydn, de Salieri, donc il a transmis tout ça au travers de ses concertos à Chopin. Donc nous allons maintenant écouter en entier le deuxième mouvement du premier concerto, en l'occurrence joué par Zimmermann. Et là, nous allons rentrer dans la grâce absolue et dans le lyrisme. Je vous invite à écouter cette andante.
Thank you.
Je crois que cet extrait que nous venons d'écouter est parfaitement résumé quant à la personnalité de Chopin par le grand poète allemand Heine, qui a écrit avec une grande justesse à propos de Chopin: « Il n'est ni polonais, ni français, ni allemand. Il trahit une origine bien plus haute. Il descend du pays de Mozart, de Raphaël, de Goethe. Sa vraie patrie est le royaume enchanté de la poésie. » Chopin est un poète lorsqu'il compose, il est aussi un poète lorsqu'il se met au piano. Il n'aime pas les grands concerts, les grandes démonstrations, il préfère les salons. Ce n'est pas comme Liszt qui aime se produire, qui a un jeu grandiose. Chopin a un jeu fin, délicat, avec des doigtés tellement bien choisis que si son jeu n'est pas puissant, il est toujours perlé, il est toujours magnifiquement développé. À ce propos, Balzac, comparant Liszt et Chopin, avait dit avec sa truculence: « Liszt est un démon, Chopin est un ange. » Et cet ange tombe en plein romantisme. Il est né en 1810, année bénie, année de naissance de Schumann, Liszt, Mendelssohn. Enfin bon, c'est une année incroyable. Et il fait l'unanimité, évidemment, par son élégance, sa grande finesse, sa politesse. Il a une attitude, on va dire, aristocrate. Il tombe en plein romantisme, où il fait la connaissance de gens incroyables. Georges Sand, bien sûr, nous en parlerons dans la prochaine émission. Il sera très ami avec le peintre Delacroix, qui fera de lui un très beau portrait. Liszt, les facteurs de piano, Pleyel, Erard, qui sous l'influence de tous ces pianistes feront évoluer la facture du piano, Berlioz, Balzac, au cœur du romantisme. Et il va développer sa musique au départ un peu intimiste, discrète, mozartienne, pour produire, pour écrire des œuvres qui rentrent dans le grand répertoire romantique, avec ses sonates pour piano. Pour rappel, la deuxième sonate et sa marche funèbre connue dans le monde entier, qui sert d'ailleurs à enterrer en général les dignitaires russes. C'est un retournement assez ironique de l'histoire. Il va donc composer des œuvres qui sont foisonnantes, avec une beauté de thème, un langage musical universel. Et parmi ces œuvres, des impromptus, des polonaises, nous y reviendrons, des scherzi, nous y reviendrons, et des ballades qui sont des œuvres tout à fait épiques, sans thème précis, mais qui laissent le sentiment, qui laissent l'exaltation se développer. Écoutons la première ballade, qui est sans doute la plus connue des quatre ballades que Chopin a composées. Nous sommes au cœur du romantisme, c'est beau, les thèmes sont magnifiques, ils sont développés, ils éclatent. Voilà ce que Chopin va développer, l'exaltation romantique au piano. À l'instar des ballades, Chopin va composer, il compose 4 ballades, il va composer 4 scherzi, scherzo singulier. On connaissait le scherzo comme un mouvement à 3 temps qu'on trouve dans beaucoup de symphonies. Chopin, lui, va en faire un morceau de piano à part entière. Et un gros morceau de piano, où à l'instar des ballades, il va donner cours à une fantaisie rythmique et mélodique assez inouïe. 4 scherzi, c'est cette pièce à 3 temps, vif, divertissant, et il conserve la structure en 3 parties du scherzo classique. Écoutons le premier scherzo, pièce romantique, on va dire électrique.
Cette musique exprime à merveille la dualité de Chopin. Balzac a dit de lui, c'était un ange dans sa vie, mais dans sa musique, il est un peu Dr. Jekyll and Mr. Hyde. C'est un ange, mais c'est aussi un démon, comme a pu l'être Liszt, mais lui, il était dans la vie. Chopin, lui, est un ange et un démon dans sa musique. Nous venons de l'entendre dans sa dualité, la douceur et l'extrême énergie, voire la violence. Nous avons écouté aujourd'hui Vladimir Horowitz dans deux valses, opus 64 numéro 2, opus 34 numéro 2, le nocturne opus 55 numéro 1, la ballade jouée à Carnegie Hall en 1965 pour son grand retour et le scherzo numéro 1 que nous venons d'entendre. Au milieu de l'émission, nous avons écouté Hummel, un extrait du concerto numéro 1 joué par Stephen Hugh avec l'English Chamber Orchestra, puis le merveilleux andante du premier concerto de Chopin par Christian Zimmermann avec, pour la bonne cause, le Polish Festival Orchestra qu'il dirigeait lui-même. Notre prochaine émission sera donc consacrée à Chopin le polonais, Chopin l'énergie. Donc nous vous donnons rendez-vous dans un mois. D'ici là, passez un bon mois de septembre. À bientôt.
À bientôt.